Je vous invite à une lecture qui se trouve dans le livre de Jonas. Donc c'est un livre que j'affectionne beaucoup. Et nous lirons le premier chapitre du livre de Jonas. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Et quoi, tu dors ? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne nous périrons pas. » Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux, « Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandèrent, « Fais-nous savoir qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays? Et de quel peuple es-tu ?» Jonas leur répondit, « Je suis hébreu et je révère à l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de l'Éternel. Aussi, ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent, « Que ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraires ?» Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera. Car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. » Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toutes leurs forces pour regagner la côte, mais ils n'y parvinrent pas, car la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme et ne nous tiens pas pour responsables de la mort d'un innocent. Car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas durant 3 jours et 3 nuits. Jonas resta dans le ventre du poisson. J'arrêterai volontairement la lecture ici. Donc pour moi, le livre de Jonas est un livre qui me parle beaucoup, parce que ça retrace quelque part mon histoire. Peut-être que ça retrace aussi votre histoire à vous ici qui êtes présents. Donc c'est un livre qu'on peut lire en 10 minutes, qui est très court, mais un livre qui est pour moi magnifique, parce qu'il y a cet appel de Jonas et ce refus d'écouter Dieu. Bien sûr, le livre de Jonas est un livre historique. Jésus lui-même a défendu son historicité. Le livre parle aussi de ce poisson qu'avale Jonas, alors ça peut prêter à rire. Mais si Dieu est créateur, si Dieu est tout-puissant, il peut faire cela. Jonas est un homme assez terrible puisque Dieu l'appelle et il part loin de la face de l'Éternel. C'est un peu si comme Dieu nous appelait nous et que nous faisions le contraire de l'appel qu'il nous adressait. Il part dans un pays bien lointain, bien connu à l'époque pour son commerce, et on pense que c'est certainement le pays d'Espagne, pour Tarsis. De l'autre côté, au bout du monde, Tarsis était si loin, Esaïe nous dit, que même la parole de Dieu ne pouvait l'atteindre. Et c'est assez intéressant le jeu de mots qu'il y a pour nous faire comprendre pourquoi Jonas est parti à Tarsis. Parce qu'il pensait que là-bas, Dieu ne viendrait pas le chercher. Jonas, en tout cas, il nous est décrit dans le livre comme un homme de foi, un homme qui croit, puisqu'il confesse l'Éternel, il a la connaissance de ce Dieu, il va même permettre aux marins de connaître ce Dieu-là. Il avait compris qui était Dieu. Mais voilà, Jonas résiste à la parole de l'Éternel. Certains se sont posé la question, est-ce qu'il avait peur ? Moi, je ne crois pas que Jonas avait peur après ce qu'il a demandé aux marins. Jonas se retrouve au milieu de païens. Au milieu de païens pour aller proclamer une bonne nouvelle à un peuple auquel il n'a pas envie d'annoncer la bonne nouvelle. Son problème à Jonas, il le dit lui-même par rapport à l'Éternel, tu es un Dieu miséricordieux. Je sais que tu es un Dieu miséricordieux. Quand vous lirez la suite du livre de Jonas, vous trouverez que Jonas ne veut pas aller à Ninive parce que Dieu est trop miséricordieux. Tu veux les sauver alors qu'ils ne le méritent pas. Il refuse de faire la volonté de Dieu car il n'est pas d'accord avec ce Dieu qui puisse tendre la main vers ce peuple sanguinaire. Il ne veut pas qu'il se repente, et il le dit très clairement à la fin de son livre. C'est sûr que Ninive, les habitants, ce n'étaient pas des hommes tendres, c'était des barbares qui torturaient les gens, qui coupaient les mains, qui coupaient les têtes. Peut-être qu'il y avait parmi de ses proches qui avaient été massacrés. Et c'est vrai qu'historiquement, on a retrouvé des fresques, justement, dépeignant les diverses tortures de ce peuple. C'est un peu comme si Dieu, aujourd'hui, nous demandait à nous d'aller annoncer la parole à Daesh. C'est un peu comme si Daesh avait tué quelques membres de notre famille et qu'on reçoive de la part de Dieu d'aller lui annoncer la bonne nouvelle. Je ne suis pas certain qu'on irait. Je pense qu'il y aurait un temps, en tout cas, d'hésitation. On demanderait des signes, beaucoup de signes. Quand il s'agit d'aller annoncer la parole à ses ennemis, je crois qu'on est capable de demander beaucoup de signes. Mais quand on lit ce livre de Jonas, on comprend que la grâce de Dieu n'a pas de limite. Que cela nous plaise ou non, Jonas avait une vision limitée de l'amour et de la grâce de Dieu. On pourrait dire qu'il avait un regard étroit par rapport à cet amour-là, comme nous, nous pouvons l'avoir aussi. Comme nous, nous pouvons dire, ces gens qui accompagnent Daesh et Daesh lui-même ne méritent pas de recevoir la bonne nouvelle. Les Assyriens étaient très cruels, mais aujourd'hui il y a encore des hommes qui sont cruels. Il y a encore des barbares. Et pourtant, Dieu demande à ce que ces gens-là entendent la bonne nouvelle. Jonas, il va très clairement dire à Dieu qu'il n'est pas d'accord avec lui. Jonas, il va bouder dans le bateau. Il refuse d'adresser la parole à Dieu. Il va lui parler par un signe, en allant au fond du bateau et en boudant. De l'autre côté, il prend ce chemin inverse et c'est la même chose. Il va dans ce chemin, s'égarer, on pourrait dire, puisqu'il fait le contraire, qu'il est en désaccord avec Dieu. Jonas va se révolter contre Dieu. Et nous avons le droit, nous aussi, d'être en révolte contre Dieu. Jonas choisit le langage des images pour parler à Dieu, puisqu'il est fâché contre Dieu. Un langage verbal, la tempête, Dieu va lui répondre aussi par un langage verbal. Jonas n'est pas content de ce que Dieu lui demande. C'est pour cela que Dieu fait venir cette mer qui se déchaîne et qui va amener une frayeur pour ses marins. Et Jonas va devenir évangéliste malgré lui, on pourrait dire. La première conversion, on la voit dans ces hommes qui sont dans le bateau. Et c'est vrai que quand on lit l'Écriture, même le Nouveau Testament, quand on lit par exemple la parabole des ouvriers de la dernière heure, quand Jésus demande à des ouvriers, qui prend cette parabole, qui dit à ses ouvriers tout le matin pour une pièce d'argent, et qu'ils aillent travailler, et il leur donne ce salaire, et leur dit voilà, le salaire est bien fixé entre nous, c'est une pièce d'argent. Et puis il va en arriver d'autres à 9h, il va rien dire, ainsi de suite, jusqu'à 17h, ceux qui arrivent à 17h, et quand la paye arrive, la rétribution est la même pour tous. Et là, tout le monde n'est pas d'accord. Beaucoup se révoltent contre cela. Certains pensent que c'est injuste. Injuste que Dieu puisse appeler des hommes méchants. Injuste que Dieu puisse appeler des gens au seuil de la mort. Et pourtant, cette parole est très claire dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16, puisqu'elle nous dit que quiconque croit en lui peut avoir la vie éternelle. Et je crois qu'on a le droit, nous aussi, de ne pas être d'accord avec Dieu. Mais vous savez, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, quand Dieu a un plan, il va nous y faire rentrer malgré tout. Il a toujours le dernier mot, Dieu. Dieu va parler par Jonas par des signes. Ce sont les marins qui vont lui demander d'invoquer son nom, d'invoquer le nom de l'Éternel. Mais Jonas va continuer à ne pas parler à Dieu. Il préfère être jeté à la mer que parler à Dieu. Ça nous montre son entêtement. Jetez-moi à la mer pour se désolidariser. Et c'est ce qui se passe, la tempête s'arrête. Dieu, l'amour de Dieu, est insondable et Dieu vient à son secours malgré cela. Dieu, on pourrait dire, il n'est pas rancunier, c'est pas comme nous. Vous voyez, parfois, on a la mémoire sélective. Il y a des choses qu'on se souvient. Celles qu'on nous a fait, ça, en principe, on s'en souvient. Hein. On est un peu rancunier. Peut-être pas vous, mais dans le midi, on est rancunier. Et Jonas, je crois que lui aussi, il était rancunier. Jonas se sauve. Et c'est dans le ventre du poisson, c'est dans ce chaos qu'il va crier à l'Éternel. Et c'est intéressant puisqu'il va reprendre le psaume 130 en criant à l'Éternel, en demandant à Dieu d'intervenir. On pourrait dire que Jonas va se repentir après 3 jours. Jonas parle enfin à Dieu et Dieu parle au poisson. Et c'est intéressant, le poisson il obéit. Jonas, son nom signifie colombe, c'est-à-dire paix, un nom prédestiné, comme parfois on peut avoir des noms prédestinés. Vous savez, résister à l'appel de Dieu, résister à la volonté de Dieu, je ne pense pas qu'on puisse trouver le bonheur en résistant à la volonté de Dieu. Je ne pense pas qu'on puisse trouver la paix en faisant la sourde oreille quand Dieu nous appelle. Je ne pense pas qu'on puisse être heureux en faisant semblant de ne pas comprendre ce que Dieu attend de nous. Parce que Dieu attend de nous quelque chose. Dieu veut nous faire connaître l'immensité de son amour, cette profondeur que Paul parlera dans Romains 8, 39. Peut-être que vous êtes comme Jonas, vous connaissez les Écritures, vous connaissez Dieu, vous en avez entendu parler. Vous savez, la première fois que j'ai découvert Dieu, j'avais 8 ans. Pour moi, c'était clair. J'ai parlé à Dieu, il m'a répondu. Pour moi, Dieu existait. Et j'ai commencé à avoir un dialogue avec Dieu. Ce dialogue a fait que je suis allé m'inscrire au catéchisme tout seul. Et donc, j'ai eu M. Desplanques comme pasteur. Pas celui que vous avez ici, mais son papa. Ensuite, j'ai cheminé. Et puis à 13 ans, j'ai rencontré un groupe qui avait un coffee bar à l'époque. J'avais des coffee bars. Et donc là, j'ai pris une décision avec Dieu. Et vous savez, découvrir Dieu, prendre une décision, c'est deux choses très intéressantes. Mais j'avais tout compris. Ce qui était terrible, c'est que j'avais tout compris. Qui était Jésus? Ce qu'il demandait de moi. Et j'ai résisté de l'âge de 13 ans à 27 ans à son appel. Pas que je ne savais pas, mais ce que je ne voulais pas. J'avais très bien compris ce que Dieu attendait de moi. Il voulait que je me donne complètement à lui, pour qu'il puisse intervenir dans ma vie, pour qu'il puisse opérer en moi ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Comme quoi parfois, on peut connaître Dieu, on peut avoir pris des décisions, on peut avoir fait un catéchisme, on peut être enfant de chrétien. Mais ce n'est pas parce qu'on est enfant de chrétien qu'on est chrétien. On le devient par une décision qu'on doit prendre avec Dieu. Et le livre de Jonas, pour moi, retrace mon histoire et retrace certainement l'histoire de certains qui sont parmi nous ici présents. Peut-être que vous êtes en route avec Dieu. Peut-être que vous avez découvert qui est Dieu. Et je crois que c'était assez clair pour moi, au travers de cette comédie. On comprend qui est Dieu, ce qu'il a fait, pourquoi il a fait. Et peut-être que vous avez pris une décision, mais vous faites comme moi je faisais. Je prenais la Bible à la carte. Je me confortais dans mes erreurs au travers de ce qui était écrit dans la parole, au travers de certains serviteurs. Mais je n'avais pas la paix. Et le jour où j'ai crié à Dieu, où j'étais dans un chaos comme Jonas, parce que je savais que si je criais, Dieu allait intervenir. Mais ça allait impliquer quelque chose en moi, un changement. Un changement de direction. Un changement de vie. Alors ce jour-là, parce que je n'avais plus d'autre issue, un peu comme Jonas coincé, c'était pas une baleine, mais c'était dans une pièce, là j'ai crié. Et il nous est dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et Dieu a répondu. Et comme Dieu a répondu, j'ai pris cet engagement de lui donner ma vie. Et qu'il fasse de moi la personne qu'il voulait que je sois. Et je crois que c'est ça qu'on peut retrouver dans le livre de Jonas. Jonas qui ne veut pas annoncer l'évangile à ces gens-là parce qu'ils ne sont pas assez bien. Mais l'apôtre Paul dira que chacun de nous, ici présents, nous avons participé à la crucifixion du Christ. Chacun de nous, nous sommes coupables. En fait, nous sommes devant un impasse. Nous sommes condamnés à la perdition éternelle. Mais il nous est dit, le don gratuit de Jésus-Christ permet que si vous vous repentez, si vous demandez pardon, et si vous l'acceptez dans votre cœur, alors il fera de vous des personnes nouvelles. Alors il vous donne la promesse de la vie éternelle. Ce n'est pas une utopie, la vie éternelle. Si nous ne croyons pas à la vie éternelle, alors à quoi bon venir le dimanche au culte? À quoi bon lire sa Bible? Si nous pensons que la résurrection n'existe pas, ce n'est plus la peine de croire. Inscrivez-vous à un club autre. Mais nous croyons à la résurrection. La croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de vie pour ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Le Seigneur désire nous utiliser. Le Seigneur nous appelle, chacun de nous. Peut-être que vous hésitez, vous êtes là et vous ne savez pas si vous devez répondre à Dieu pour un appel précis. Peut-être que vous avez besoin de vous reconsacrer au Seigneur. Parce qu'il arrive que parfois on s'éloigne de Dieu avec le temps, avec les difficultés, avec les pressions. Peut-être que ce soir c'est le moyen de revenir au Seigneur. De dire oui Seigneur, je me suis éloigné de toi. Oui Seigneur, j'ai fermé mes oreilles à ce que tu disais dans ta parole. J'ai fermé les yeux aussi. J'ai pas voulu voir ce que tu m'as montré. Mais ce soir, 21 novembre, je veux prendre une nouvelle décision avec toi. Je veux que tu fasses de moi une personne nouvelle, si nous ne l'avons pas encore acceptée, comme Seigneur et Sauveur. Et vous savez, il y a une grande distance entre accepter Jésus comme son Sauveur et accepter Jésus comme son Seigneur. Ça veut dire, oui, prends tout Seigneur. On le chante, ce chant, oui, prends tout. Mais est-ce que nous allons jusqu'au bout de ce que nous chantons? Peut-être que ce soir, vous avez envie de vous reconsacrer, de reconsacrer votre vie au Seigneur. Peut-être que ce livre de Jonas vous parle, en tout cas s'il ne vous parle pas ce soir, je suis sûr qu'il vous parlera un jour. Parce que vous découvrirez que l'amour de Dieu est insondable pour quiconque. Dieu nous dit que alors que nous étions ses ennemis, il a donné sa vie pour nous. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose, ce n'est pas parce que nous sommes des gens bien que Dieu nous donne sa vie. C'est tout simplement parce que nous sommes ses créatures et qu'il aime toutes ses créatures et qu'il offre à toutes ses créatures la vie éternelle. Alors peut-être qu'il y en a parmi nous qui ont entendu parler de Dieu, qui sont en chemin et qui n'ont jamais pris de décision. Je pense que quand Dieu frappe à une porte, c'est intéressant parce que la parole de Dieu dans l'Apocalypse, il nous est dit qu'il frappe à la porte, il nous est dit que si quelqu'un entend sa voix, si quelqu'un entend sa voix, si Dieu ce soir vous a parlé, alors Dieu vous invite à ouvrir la porte. Ce n'est pas lui qui va ouvrir la porte, mais c'est à vous à l'ouvrir pour qu'il entre dans votre vie. Et ce texte d'Apocalypse 3:20 s'adresse aussi à l'Église, c'est-à-dire à une Église qui est en train de se refroidir. Et Dieu demande à ce qu'il revienne dans cette Église. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Et je souperai avec lui. C'est ce que veut faire Jésus ce soir pour nous. C'est ce qu'il désire pour chacun de nous ici présents. Et vous savez, la vie est fragile. Aujourd'hui on est là, ce soir on est ensemble. Mais qui nous dit qu'on va rentrer chez nous, hein ? Rien ne nous dit cela. Dieu voulant, oui, on rentrera chez nous. Dieu voulant, on se verra demain au culte. Mais peut-être que demain, on ne se verra pas. Demain ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Le temps ne nous appartient pas. C'est pour cela qu'il est primordial de mettre sa vie en règle avant qu'il soit trop tard. Qu'on soit jeune ou moins jeune, il est temps de se réconcilier avec Dieu. Il est temps aussi de se reconsacrer à Dieu. Moi, ce que je vous invite ce soir, c'est justement, peut-être, si vous avez envie de vous reconsacrer à Dieu, à vous approcher, et puis on priera pour vous. S'approcher, c'est un acte symbolique, mais c'est un acte qui est fort. C'est un acte qu'on fait devant tout le monde. On n'aime pas, nous, chrétiens, demander d'être consacrés devant tout le monde. Oh là là, ça veut dire que je m'étais éloigné de Dieu et tout le monde va le savoir. Eh bien alors, Dieu nous demande d'être authentique. Il n'y a pas de mal à s'être éloigné. Le mal, c'est de rester dans son état. Mais si nous revenons au Seigneur, si nous lui demandons de nous reconsacrer à lui, alors il est prêt à nous reconsacrer.